23 août 1995, première conférence.
Troisième jour, c'est le jour où vous pouvez entrer à fond dans cette recherche théologique. Difficile, parce que d'abord, l'Apocalypse nous dépayse. C'est excellent d'être dépaysé. On est tous un peu cartésiens. Tous. Et on a de la peine à comprendre un regard qui implique toujours un aspect symbolique, où on doit dépasser le symbole sans l'oublier. Et je crois que c'est ça qu'une théologie mystique doit garder, qu'une théologie de l'économie divine doit garder. Je précise, la théologie doctrina sacra, théologie scientifique, regarde les paroles et l'enseignement. On n'enseigne pas la parole, on n'enseigne pas directement par le geste. La présence, oui, mais c'est la parole. Or, toute la révélation implique parole et geste. Et au fond, toute cette question des gestes, dans la théologie latine, je ne parle pas d'Orient, est restée de côté. Ça me frappe énormément. Quand on se plonge dans Saint Jean, quand on se plonge dans l'Apocalypse, le geste est toujours un peu symbolique. Puisque c'est par le corps, le symbole est lié au corps. Il est lié à la main, il est lié aux pieds, il est lié aux cheveux. C'est dit dans la cantique des cantiques, n'est-ce pas ? Et tout ça demande d'être récupéré dans ce renouveau de la théologie. Si le Saint-Père demande un renouveau au point de vue évangélisation, il y a un renouveau théologique qui doit se faire dans la tradition, sans du tout un renouveau dialectique d'opposition révolutionnaire, pas du tout, mais le rénovare dans le conservare. Et moi, c'est ça qui est très difficile. Moi, j'y pense depuis 30 ans. Vraiment. Et j'avais envoyé une fois un petit, ce que je portais dans mon cœur, un cher père dominicain qui maintenant est mort, le père Dondaine, qui était très traditionnel. Très traditionnel, très thomiste, mais saint Thomas. Alors quand on lui posait des problèmes au point de vue moral, dans la lumière de Freud, il levait les mains. Saint Thomas n'en a pas parlé. Silence. Alors, on a voulu dire, mais saint Thomas nous donne des principes qui doivent éclairer ses conclusions. Freud ne nous donne pas de principes, il donne des conclusions. Alors, il faut essayer d'éclairer ses conclusions. Il dit, oui, mais ça me dépasse. Et des quantités de thomistes sont restés là-dessus, comme ça. Ce qui n'est pas du tout fidèle à Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin, au dire du père Chenu, c'était un de ses dodos, Thomas d'Aquin est révolutionnaire. Il ne l'est pas révolutionnaire. Mais il fait un renouveau énorme dans la théologie. C'est un pas. Alors certains considèrent que c'est un pas dangereux et qu'ils n'auraient pas dû le faire. D'autres considèrent que c'est un pas merveilleux parce qu'à partir de là, il y en a un approfondissement. Mais c'est vrai, c'est quand on pense avant et après, quand vous voyez Saint Albert le Grand, le maître de Thomas d'Aquin, et Thomas d'Aquin, ce serait une très belle thèse à faire, ça. Parce que là, on voit bien, Albert le Grand, c'est encore Avicenne. Et Thomas d'Aquin a dépassé Avicenne. Avicenne était le grand maître. Et vous voyez, et c'est ce que la Sorbonne n'a pas accepté. Parce qu'Avicenne était un croyant. Il était musulman. Et la Sorbonne de Paris a condamné Thomas d'Aquin de quitter le croyant pour le païen, quitter Avicenne pour Aristote. C'est assez gros, hein, mais c'est comme ça. De temps en temps, la Sorbonne fait des bêtises. Elle n'a pas l'infaillibilité, hein. Faut pas l'oublier. Et qu'au contraire, l'Église n'a jamais condamné Thomas d'Aquin. Jamais. Mais ça a joué énormément. La condamnation, ça a empêché de Saint-Thomas d'avoir des successeurs. Tout de suite, il y a eu une faille. Et on est revenu à Avicenne. Avicenne, c'était du néoplatonisme avec de l'aristotélisme, c'est un mélange. Ça, c'est évident que c'est très difficile de voir la richesse d'Avicenne. C'était un homme prodigieusement intelligent. De son temps, on le considérait comme le génie de son temps. Et je crois, il est génial. Je ne connais pas l'Avicenne arabe, je connais que l'Avicenne latin. Mais j'ai eu la chance à Fribourg d'avoir quand même un phénicien. Il était, selon son passeport, il était syrie. Mais il ne fallait surtout pas dire qu'il était syrien. Il était phénicien. Alors il parlait l'arabe couramment. Il avait une thèse sur Avicenne. Arabe. Moi, ça m'a beaucoup intéressé. Évidemment, je ne pouvais pas beaucoup vérifier. Mais montrer la différence entre l'Avicenne latin et l'Avicenne arabe. C'est pour montrer combien aujourd'hui, je crois que l'Esprit Saint nous le demande par le Saint-Père. Il y a un renouveau dans l'Église. Le renouveau dans l'Église doit être monastique, doit être théologique. Autrement, il n'y a plus, vous voyez, d'orientation, de structure. On part, effectivement, un renouveau charismatique. Le renouveau de charismatique ne structure pas et ne peut pas structurer. Les charismes ne structurent pas. C'est merveilleux comme courant d'air. C'est extraordinaire, ça enlève toute la poussière. Ça fait que les gens... Mais ça demande... C'est très bon, point de départ. Ça demande une réflexion théologique pour être dans le renouveau. Alors, qu'est-ce que c'est que ce renouveau théologique? Je crois que seul le pape nous en donne la clé. Le pape a une fidélité à Thomas d'Aquin et un amour pour Thomas d'Aquin remarquable. On peut pas nier. Ancien élève de l'Angélique. Dommage qu'il n'a pas été élève à Fribourg, parce que je l'aurais connu comme étudiant. Mais il était à l'Angélique. Un très grand amour, et ce très grand amour pour l'Orient. Donc le Saint-Père nous indique comment faire ce renouveau. Et la lettre encyclique de Lumen Orientale pour les théologiens est quelque chose de magnifique. Il faut la lire, ça, si vous ne l'avez pas encore lu. Parce que ça fait... On est tout proche des battements du cœur du pape. Et c'est quand même intéressant de voir ce qu'il porte en lui comme ce que l'Esprit Saint réclame de lui. Oui, ce retour au point de départ qui permet le renouveau. Et il n'hésite pas de dire, l'Église est premièrement orientale. Et c'est vrai, l'Église est premièrement orientale. Elle n'est pas premièrement latine. Tous les tenants de la latinité en prennent un petit coup. Vous voyez, c'est un faux renouveau de retourner au latin. C'est une époque, le latin, c'est une époque dans l'Église, mais ce n'est pas la source. Je me souviens, Gilson, faisant une conférence à Rome, comme on était quand même suffisamment, je ne dis pas amis, on l'était profondément, parce qu'on cherchait la vérité ensemble. Il m'a dit avant la conférence, je vais faire cette conférence, vous allez voir, je vais montrer que les Latins n'ont rien inventé. Ils ont répété, copié, et quelquefois de travers. Ça, c'est du Gilson. Et c'est vrai, le génie est grec, beaucoup plus. Il est sorti dans cette diversité. Et quand le Saint-Père nous dit « l'humaine, rien ne t'allé », c'est ça qui veut nous faire comprendre. Il y a un retour très profond à ce point de départ de l'Église. Vous voyez, c'est le retour d'une certaine manière au Père de l'Église. C'est sûr, mais un retour non pas historique, parce que ce ne serait pas du Saint-Esprit. C'est un retour surnaturel, un retour mystique pour retrouver, j'allais dire, ce qu'il y a de vital dans la théologie. Ce qu'il y a de premier dans la théologie, mettre notre intelligence dans sa recherche de la vérité au service de la foi. Et alors comprendre à ce moment-là que la révélation, puisqu'elle se termine dans le mystère de Jésus, elle implique le Verbe et la nature humaine. Et la nature humaine implique le corps. Le Verbe est devenu chair. Et Geneto Sarx, prologue de Saint Jean, qui est une phrase extraordinaire. Le Verbe est devenu chair. Le Verbe, source de toute la parole. La chair, source de tout symbole. Et c'est ça, je crois, que nous devons faire comme effort théologique de comprendre l'évangile le plus profond au plan vu du verbum, du Verbe. On n'hésite pas de le dire. La messe en l'honneur de Saint Jean dit que Saint Jean, c'est celui qui a eu la révélation du Verbe et qui a renouvelé par là toute la théologie. Et Saint Jean est celui qui nous donne l'Apocalypse et qui nous donne cette clé de tous les symboles. Du symbole divin. Parce que l'Ancien Testament, très bien, mais tout est imparfait. Je ne peux pas construire une théologie sur l'Ancien Testament. Impossible. Je construis une théologie sur le mystère du Christ. Le Verbe est devenu chair. Alors, pardonnez-moi de revenir en arrière. On ne revient jamais en arrière. À la source. Vous avez dit que la perversion de l'intelligence était plus importante et plus grave que la perversion de l'amour. Faites attention, j'ai rappelé la parole d'un polytechnicien. Quand j'étais jeune et que j'avais 17 ans, et que ça m'a frappé énormément. C'était un matheux, polytechnique, comme disait le père Gérard Delaurier. C'est très vrai que la perversion de l'intelligence est plus fondamentale que la perversion du cœur. Elle est plus fondamentale parce qu'elle touche la structure de la personne humaine. Et en touchant la structure de la personne humaine, elle fait que tout est boiteux. L'homme n'a plus d'arête. Il ne se tient plus debout. Il recommence à marcher à quatre pattes. Il n'y a plus cette espèce d'allant qui se tient debout. La recherche de la vérité. Le Saint-Père, quand il dit crise de la vérité, il le dit dans l'encyclique Splendor Veritatis, nous dit ça. Perversion de l'intelligence, crise de la vérité. Et ça, c'est très radical. C'est très profond. La perversion du cœur peut venir de la passion, L'homme a 45 ans, a 50 ans, il commence à loucher. Alors ça, c'est perversion du cœur. Bon, ça peut être romantique, fantaisiste, vous voyez, ça ne dure pas très longtemps. S'il a une rectitude à la recherche de la vérité. Perversion du cœur peut aller plus loin quand c'est pas seulement l'aspect romantique et la crise que tout homme connaît. Il y a plusieurs vocations, il y a des âges successifs dans notre détermination de notre vie, dans l'orientation de notre vie. Ça peut aller beaucoup plus loin. Alors ça peut pervertir notre amour, notre volonté, et faire que notre volonté ne tient plus. Alors à ce moment-là, ordinairement, la chute, la perversion du cœur conduit à la perversion de l'intelligence. Et c'est l'orgueil. Donc c'est ça que je veux dire. Alors pourquoi ? C'est parce que tout amour spirituel présuppose l'intelligence. Tout amour spirituel. Et la charité divine présuppose la foi. La perversion de la foi ébranle tout chez un chrétien. Et la perversion de la foi peut provenir de la perversion d'intelligence. Pas directement, mais indirectement. Et quand vous avez affaire à quelqu'un qui a eu une intelligence faussée par les idéologies marxistes, par les idéologies athées, quand vous avez affaire à quelqu'un dont l'intelligence a été faussée par l'idéalisme, comme c'est difficile de revenir au réalisme de la foi. Très difficile. Le réalisme de la foi est mal à l'aise dans une intelligence idéaliste. Et l'intelligence peut, alors à ce moment-là, cette perversion de l'intelligence peut mener à une perversion de la foi. Pas immédiatement. Peut-on parler de perversion pour l'amour et non pas de blessure? Oui, on peut parler de perversion. L'amour peut se pervertir. L'intelligence, oui, ça c'est sûr, en premier lieu. Perversion d'amour, parce que c'est toujours le bien qu'on connaît, qu'on aime. Alors il peut y avoir une connaissance mauvaise, mais je ne discuterai pas là-dessus. Plus la perversion d'intelligence, plus. Mais c'est plus que des blessures. Je crois que tout être humain est blessé quant à son cœur. Tout être humain. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop les regarder, nos blessures. On le sait. On a tous été blessés. Heureusement, d'une certaine manière. On a tous été plus ou moins blessés. Il y en a qui sont blessés très très profondément et très radicalement. La blessure n'est pas une perversion. La perversion, c'est une orientation de vie qui est fausse. Et vérité, perversion d'intelligence. Et qui implique aussi une perversion d'amour. Là, c'est très net. Celui qui croit que la sincérité remplace la vérité. Dieu, créant dans un regard contemplatif, la contemplation de la contemplation et créant de toute éternité des êtres capaxéi, donc une personne, mais capaxéi, donc en puissance. Peut-on dire qu'il n'y a qu'une révélation de Dieu, celle de son acte créateur, implicite dans un premier temps, explicite dans un second, et le second temps son fils. À travers la révélation de la Bible. Simplement que la créature est à la personne au jardin il fait à la personne à l'Éden l'arbre de la connaissance puissance sans après le péché originel présent, puissance 10 l'Ancien Testament Nouveau Testament. Non, on ne peut pas dire qu'il n'y a qu'une révélation. L'Église a toujours maintenu un premier état. Adam et Ève, qui sont à la fois symboliques et symbolisme divin qui exprime une réalité. Vous n'avez pas le droit de dire que qu'Adam et Ève est un pur symbole. Ça, c'est d'aller contre l'enseignement d'Église. Adam et Ève sont une réalité symbolique, c'est évident. Qui a un sens pour le savant. Non, une symbolique est un symbolisme divin qui se réalise dans une personne. Et donc la révélation adamique. La révélation adamique, c'est une révélation au niveau d'une grâce de justice originelle. C'est la grâce première. Et c'est une révélation dont on n'a pas de témoignage. Mais c'est une révélation. Adam et Ève ont été enseignés par Dieu. Et Adam et Ève ont eu ce privilège et en même temps cette charge d'être responsables de toute l'humanité. Il ne faut pas l'oublier. C'est en ce sens-là que l'Écriture fait un parallélisme entre le Christ et Adam. Autrement, le parallélisme ne signifierait rien du tout. Adam est premier dans l'ordre de perfection dans la nature humaine. Il est chef de la nature humaine. Princeps, premier. Dans cette grâce de justice originelle, la faute supprime cet état de grâce et ne touche pas à la nature humaine. C'est la même nature humaine, mais dans un état de chute. Et Dieu promet tout de suite un sauveur. Et donc, dès le point de départ, on a le point de vue état, l'état adamique de la grâce, l'état de pécheur, la rupture, et l'état de promesse du sauveur. Et cet état de promesse du sauveur, c'est la grâce chrétienne qui est déjà donnée. Dès qu'Adam s'est repenti de sa faute, Dieu lui a redonné la grâce, et une grâce chrétienne. Le Christ n'était pas encore là, mais c'était en vue du Christ. Alors, une grâce chrétienne implicite. Adam ne savait pas qui devait être le Christ, mais savait qu'il devait y avoir un sauveur. Et tout l'Ancien Testament a été, après Adam, le lieu de préparation à la venue du Christ. Je crois qu'on peut dire que ce regard de Dieu sur le peuple d'Israël, c'est un regard d'amour, de prédilection vis-à-vis de ce petit peuple, le plus petit, aimé avec tendresse, en vue de la venue du Messie. Le Messie devait naître de ce peuple, de la race de David. Alors nous sommes là, en face d'une grâce chrétienne, qui n'est pas explicité. Et la venue du Christ explicite cette grâce. Et le premier acte de vie, de foi chrétienne, c'est Marie. Dans l'Ancien Testament, Dieu reprend tout par les patriarches, les hommes. Et dans la Nouvelle Alliance, Dieu reprend tout Marie, grâce chrétienne. Le premier acte de foi chrétienne, c'est à l'Annonciation. C'est en sens-là que Marie est le modèle de la foi. Première dans la foi chrétienne, explicite. Et Adam est le père des croyants, parce que c'est déjà une foi dans le Sauveur et non explicite. Comme ça, je crois que nous devons essayer de comprendre ce rythme particulier moments très différents. Le moment premier avant la faute, le moment après la faute. Le moment après la faute est illuminé par le mystère de l'agneau égorgé. Dans la vision de l'Apocalypse, c'est l'agneau égorgé qui illumine tout après la faute. Et Jésus, nouvel Adam, ne supprime pas le premier Adam. Et ça, je crois que c'est très important de se le rappeler pour une théologie d'économie divine. Jésus n'est pas celui qui remplace le premier Adam. Il est analogue au premier Adam dans l'ordre de la grâce. Dans l'ordre de la grâce, il est vraiment tête, princeps, et reprend tout dans l'ordre de la grâce. Il n'y a pas de grâce en dehors du Christ, source de tout sacerdoce. Et Jésus maintient qu'Adam demeure le prince de la nature humaine. C'est pour cela que les conséquences du péché originel demeurent, même après la croix. Parce que ça, ça peut être un scandale. Alors si on considère que le Christ remplace le premier Adam, il n'y aurait pas celui-là. Là, c'est tout un aspect qui va très loin et qui est très important. C'est les rapports de la nature et de la grâce. Alors, vous savez que les rapports de la nature et de la grâce, c'est toujours le point le plus délicat de toute théologie. Quand on est vraiment un théologien, on regarde tout de suite ce qu'un théologien dit, les relations de la nature et de la grâce. Parce que très facilement, de très bons chrétiens, de très bons catholiques, considèrent que, de fait, pour exalter le Christ, on dit le Christ remplace Adam, le premier Adam. Alors qu'est-ce qu'il y a à ce moment-là ? On tombe dans une erreur condamnée par l'Église, le fidéisme. Paul VI, dans une petite audience à des théologiens, et j'étais présent, a dit que l'erreur la plus grave dans le catholicisme, à l'époque où il vivait, c'était le fidéisme. Alors, le fidéisme, qu'est-ce que c'est ? C'est au fond considérer que Jésus, nouvel Adam, remplace le premier. C'est-à-dire que notre intelligence ne peut plus rien faire par elle-même. Seule la foi peut redonner à l'intelligence la soif de la vérité. Alors que l'Église catholique, depuis les pères, et à travers toute la tradition des pères. C'est unanime chez les pères. J'ai fait l'enquête parce que je voulais le savoir, ça me intéressait. Tous les pères de l'Église reconnaissent que l'intelligence humaine peut par elle-même découvrir l'existence de Dieu. Alors que dans le fidéisme, qui est celui de Luther, l'intelligence humaine est incapable par elle-même d'atteindre la vérité. Et donc ne peut pas par elle-même découvrir l'existence de Dieu. Si l'intelligence humaine peut par elle-même découvrir l'existence de Dieu, elle ne peut pas savoir qui est Dieu. Mais on affirme que Dieu existe, mais ce qu'est Dieu, je n'ai qu'une connaissance négative. Et la connaissance positive de Dieu, elle est analogique, donc très faible. Par ma simple nature humaine, par les simples virtualités de ma nature humaine, je ne peux pas voir Dieu. La vision de Dieu face à face ne peut se réaliser que dans l'ordre surnaturel. Et c'est cela qu'on appelle la capacité de l'intelligence humaine de pouvoir voir Dieu. Elle peut voir Dieu, mais avec le secours de la grâce. Continuons. S'il y a des questions là-dessus, traitez-les dans vos petits forums. C'est très très important d'avoir dans ce domaine et juste de la nature et de la grâce chrétienne. Nous étions donc arrivés à ce moment si important où on voit le rôle capital langage symbolique qui nous fait comprendre comment la prédestination et toutes les déterminations de Dieu sur nous se font à travers la blessure du cœur de l'agneau. Et ceci, c'est capital dans notre vie. Je voudrais que vous le compreniez, mais jusque dans ce qu'il y a de plus concret dans notre vie. Parce que ça donne à notre vie chrétienne, je crois, le renouveau auquel le Saint-Père nous appelle. C'est là le renouveau, le retour à la source. Et je ne peux pas aller plus loin. Le mystère de la prédestination, c'est le regard du Père sur moi, qui est actuel. Et ce regard du Père sur moi se fait à travers le mystère de la croix, qui est actuel. L'acte du Christ, quand il offre sa vie au Père, est un acte d'amour, de contemplation. Et cet acte est éternel. Donc il est actuel. Et par cet acte, Jésus glorifie le Père et nous sauve. Il nous sauve actuellement. Et le mystère de l'Eucharistie nous rappelle d'une manière symbolique et instrumentale que cet acte est toujours actuel. Quand nous vivons le mystère de la messe, nous devons vivre l'agneau qui peut arracher les seaux et qui les arrache. Et comme il y a 7 seaux, ce que nous allons voir, on nous montre d'une manière concrète et symbolique le mystère de la prédestination. Là, cela, c'est pour moi quelque chose de très très important. Et voyez, c'est la vraie réponse à Luther. Le Concile de Trente a répondu à Luther d'une manière nette en disant « Vous vous êtes trompé, mais il faut répondre de manière positive. » Et la manière positive, je suis persuadé, c'est ce chapitre 6. Alors vous comprenez que pour le mystère de l'unité, puisque le Saint-Père nous fait comprendre que nous devons être très sensibilisés à ce mystère de l'unité, pour le mystère de l'unité, c'est capital de comprendre que l'unité ne peut se faire qu'en revenant à la source, le mystère de la prédestination. Et que ceci éclaire tout le mystère de l'Église. Le mystère de la prédestination, c'est à la fois notre naissance à la vie divine, mais naissance sur terre, qui est au fond en réalité notre conception à la vie divine et la naissance qui se fera au ciel. Parce que tant qu'on est sur la terre, on est dans un état embryonnaire comme chrétien. On doit rester dans le sein maternel. Et être dans le sein maternel, c'est l'état embryonnaire. et que si on sort du sein maternel, il faut tout de suite un tas d'appareils électriques, la couveuse électrique, pour que le petit qui est né avant terme continue de vivre. Et souvent, dans ces couveuses électriques, quand je parle au point de vue surnaturel, elles ne sont pas ce qu'il faut. Je crois que les sectes, c'est des couveuses électriques pour remplacer l'Église. Parce que tant qu'on est sur la Terre, on est dans un état embryonnaire. C'est ça qui est dur. La foi est une épreuve. L'espérance est une épreuve. C'est pas drôle d'être adulte dans son intelligence. Grâce à la philosophie, grâce aux sciences, on est adulte dans son intelligence. Et on est dans un état embryonnaire quant à notre vie surnaturelle. Alors ça fait un hiatus pas mal. Hein. L'expression être adulte dans sa foi était très mauvaise. C'est un dominicain qui l'a dit, je sais à quel moment. Elle est fausse. On est toujours dans un état de petitesse dans la foi. Et on est adulte dans sa prudence, dans sa philosophie, dans le développement de notre intelligence. On doit être adulte. La foi ne nous met pas dans un état d'infantilisme. Ce serait ça le fidéisme. Fidéisme spéculatif, le fidéisme pratique, ça nous met dans un état d'infantilité. La foi, au contraire, réclame de nous d'avoir une intelligence la plus parfaite possible pour pouvoir accepter divinement et humainement notre fiat à la volonté du Père sur nous. Être le plus conscient possible qu'on mène une vie chrétienne dans un état de dépendance radicale à l'égard de notre source, qui est la blessure du cœur de l'agneau, qui est l'acte par lequel Jésus a offert sa vie. Et nous sommes conjoints à cette source, et nous sommes liés à cette source, et nous sommes prédestinés dans cette source. Et notre vie d'oraison consiste à vivre dans cette unité consciente divinement dans la foi, à cette unité à notre source, à cette sagesse de la croix. C'est ça le mystère de l'oraison. C'est de ne pas quitter cette source, dire tout le temps, parce qu'on se laisse distraire par toutes les réalités visibles. Alors on doit remonter toujours à la source, revenir à la source. C'est ce que Jésus dit d'une manière si nette à Nicodème. C'est la grande leçon de théologie de Jésus dans l'évangile de Jean, où Jésus montre que on doit naître de nouveau. Vous voyez, le renouveau théologique, naître de nouveau. Et naître de nouveau, c'est comprendre que tant qu'on est sur la terre, on est dans cet état embryonnaire, puisque nous vivons toute notre vie chrétienne dans l'obscurité de la foi. Et dans la dépendance directe et immédiate du bon plaisir du Père. Donc, il y a là quelque chose de très important dans ce chapitre 5. Maintenant, voyons la manière dont est présenté les sept sceaux, j'allais dire les sept dimensions de notre prédestination, les sept dimensions de notre personnalité chrétienne. C'est ça qui est si étonnant dans ces sept sceaux. C'est, vous voyez, là là aussi, c'est très important de voir que si j'étudie dans une philosophie réaliste, qui est la personne humaine, je vois que la personne humaine a cette dimension. Si je au plan théologique ce langage symbolique des sept sceaux, je vois que la personne chrétienne a cette dimension. Alors, si à la fois on est théologien, on voit tout de suite comment la personne humaine est un appel au mystère de la grâce. Capax Dei. Chapitre 6. Je vis lorsque l'agneau ouvrit l'un des sept sceaux. On ne dit pas le premier, l'un des sept sceaux. Peut-être le dernier. L'un des sept sceaux. J'entendis l'un des quatre vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Oui, ce dialogue entre l'agneau et les quatre vivants, exprimé symboliquement, c'est très très beau. Hein, ça montre le lien entre la rédemption et l'incarnation. Et ça montre que arracher les sceaux, c'est l'agneau. Mais l'agneau qui est le Fils bien-aimé du Père par le mystère de l'incarnation. Dieu seul peut arracher les sceaux, puisque ce sont les définitions, ce sont les volontés du Père, et intervenir dans cette volonté du Père. Et je vis, et voici un cheval blanc, et celui qui le montait avait un arc. Il lui fut donné une couronne. Il sortit en vainqueur et pour vaincre. Et lorsque l'agneau ouvrit le deuxième sceau, donc l'ordre est donné par l'agneau, j'entendis le deuxième vivant qui disait « Viens !» Et sortit un autre cheval rouge-feu. Et à celui qui le montait, il lui fut donné d'ôter la paix de la terre et de faire qu'on s'égorgeât les uns les autres. Il lui fut donné un grand glaive. Et lorsque l'agneau ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième vivant qui disait « Viens !» Et je vis, et voici un cheval noir. Et celui qui le montait avait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des quatre vivants comme une voix qui disait « Un denier la mesure de blé, et un denier les trois mesures d'orge. » Et l'huile et le vin ne leur nuit pas. Et un langage symbolique extrêmement clair. Pourquoi lire ça? Ça ne nous apprend rien du tout. Si on est convaincu que l'Apocalypse est une révélation pour nous, pour qu'on soit heureux, on cherche. Et lorsque l'agneau ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième vivant qui disait « Viens !» C'est très beau. Vous voyez, le geste et la voix. Le geste, l'agneau, c'est le verbe est devenu chair. Et la voix, c'est le verbe. Ils sont là ensemble. C'est l'acte commun du mystère de l'incarnation et de la rédemption. C'est ça que ça veut dire. Et je vis. Et voici un cheval verdâtre. Là, vous avez tout ça en vous. Pas drôle. Hein? Et celui qui le montait, c'est le regard de Dieu sur vous. Sur chacun d'entre nous. On est apparenté au cheval verdâtre. Et celui qui le montait s'appelle la peste, l'Hadès, et l'Hadès l'accompagnait. Il leur fut donné pouvoir sur le quart de la terre, et pour tuer par l'épée, par la famine, par la peste, par les bêtes sauvages de la terre. Il faut lire les sept sceaux en même temps, parce qu'on ne peut pas les comprendre autrement. Alors, je présuppose la lecture, hein. Parce que les quatre premiers sont liés au mystère des quatre vivants. Donc il faut faire attention, vous voyez, il ne faut surtout pas être cartésien. Alors cartésien, c'est comme ça, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tout ça, c'est le même genre univoque, pas du tout. Celle que j'ai essayé de comprendre. Et si je vous le dis, c'est parce que je crois que c'est juste. Alors, ça, je vous donne ça rapidement, mais croyez bien que ça met du temps de découvrir ça. Il faut beaucoup prier. Je prends ce principe, c'est que les symbolismes de l'Apocalypse doivent d'abord se comprendre à partir de l'Apocalypse. C'est toujours comme ça, c'est une œuvre d'art, l'Apocalypse, pour le Saint-Esprit. C'est une très grande œuvre d'art. Il faut un très grand artiste pour arriver à donner l'Apocalypse. C'est fou, c'est le plus grand livre. Vous voyez, l'évangile de Jean est beaucoup plus intime, beaucoup plus caché. Mais comme grandeur d'œuvre, c'est l'Apocalypse. C'est l'œuvre par excellence. Ça a été toujours un livre que les artistes ont beaucoup aimé. C'est curieux de voir combien l'Apocalypse a été interprété d'une manière artistique. On pense à Angers, au musée d'Angers, avec la manière dont on a donné cette interprétation. Et on a fait il y a quelques années. Or, cette année-ci, il y a un centenaire à Patmos pour l'Apocalypse. L'année, il ne faut pas s'aider ici l'année prochaine. Un grand, grand, grand réunion pour l'Apocalypse. C'est curieux, c'est intéressant de voir ça, qu'au fond, comme grandeur, je ne dis pas comme intimité, mais comme grandeur, l'Apocalypse est le livre des livres. Et donc, je dois chercher l'interprétation d'abord par l'Apocalypse. Or, il y a un passage étonnant. Que vous connaissez. Et je vis donc 19:11. Et je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Vous voyez, c'est pas le hasard. Il y a un petit cheval blanc et il y a un grand cheval blanc. Si je sais que notre grâce est une participation à la grâce du Christ, je comprends qu'on exprime la grâce du Christ par le cheval blanc. Et ce cheval blanc exprime la victoire. Le cheval, c'est un symbolisme noble. C'est un animal noble, le cheval. C'est pas l'hippopotame, n'est-ce pas ? C'est quelque chose de très différent. Et voici un cheval blanc, et celui qui le montait s'appelle fidèle et véridique. C'est avec justice qu'il juge, et fait la guerre, et fait la guerre. Ses yeux sont une flamme de feu, et sur sa tête, de nombreux diadèmes. Il a un nom écrit que personne ne sait, sinon lui. Il est revêtu d'un manteau trempé dans le sang. Et le nom dont il s'appelle est le Verbe de Dieu. Les armées qui sont au ciel le suivent. Sur sur des chevaux blancs, vêtus d'un fin, d'un lin fin, blanc, pur. Et de sa bouche sort une épée acérée pour frapper les nations. C'est lui qui les fera paître avec une houlette de fer. Et c'est lui qui foule la cuve du vin, de la fureur, de la colère de Dieu. Le Tout-Puissant. Et il a sur son manteau et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des Rois, Seigneur des Seigneurs. Un passage magnifique, hein, extraordinaire, un des plus beaux passages. Tout ça est extraordinaire. C'est la grande victoire de la croix. C'est la grande victoire de la croix. Le manteau trempé dans le sang. Et chaque fois que nous communions au cheval blanc. À la victoire du Christ. Le chrétien est un homme qui participe à la victoire du Christ représenté par le cheval blanc. C'est pour ça que quand on veut savoir ce que c'est que la grâce chrétienne, venez là. Je vous affirme qu'on donnerait ça comme catéchèse aux enfants. Ils ouvraient des yeux extraordinaires. J'ai le cheval blanc, moi. J'ai le petit caillou. J'ai le cheval blanc, moi. Ma grâce est le cheval blanc. Évidemment, quand on fait le traité de la grâce, en théologie scientifique, on ne dit pas ça. Mais vous voyez, la pauvreté de la communication de la théologie scientifique, c'est magnifique. J'aime beaucoup saint Thomas, j'aime beaucoup la Somme, mais je ne peux jamais la transmettre. Tandis que je peux transmettre l'Apocalypse. L'Écosse ouvre des yeux devant l'Apocalypse. Alors je sais bien qu'il faut faire un petit peu attention à l'imagination, voilà, tempérer. Mais quand même, hein, ne dites pas que la grâce chrétienne est un été noir de l'imagination. Parce que c'est pas un été noir d'imagination. La grâce chrétienne doit sanctifier notre imagination. Et pour la sanctifier, il faut la nourrir. Pourquoi l'art chrétien est-il si pauvre aujourd'hui? Parce qu'on n'a pas nourri l'imagination chrétienne. On n'a pas sanctifié l'imagination. En Occident, on l'a asséché avec Descartes, avec Hegel, complètement. Alors, on est très frappé quand on voit ça, c'est extraordinaire. La grâce chrétienne est une participation à la vie divine, participation à la grâce du Christ. Et quelle est la manière dont on représente la grâce du Christ? Chapitre 19. Versets 11 et suivants. Ça, c'est la grâce chrétienne. La grâce en le Christ. C'est le cheval blanc. C'est celui que le monde. C'est extraordinaire. Vous voyez comment la blancheur est signe de la victoire divine. Alors, une fois que vous avez ça, vous avez la clé. Comprenez bien que le petit cheval blanc, que le Père regarde en moi, c'est le regard du Père sur moi, ça. Qu'est-ce que le Père voit en moi, en premier lieu? C'est pas du tout ce que je vois, moi, en premier lieu. C'est pas ce que les psychologues voient en premier lieu. C'est pas ce que les philosophes voient en premier lieu. Mais c'est ce que le Père voit en premier lieu. J'ai la grâce du Christ en moi, et je suis un homme victorieux par la grâce. La tonalité du chrétien, c'est la victoire du Christ. Si je ne vis pas la victoire du Christ, je suis perdu. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, vous avez donc la clé de voûte. Une fois qu'on a la clé de voûte, on comprend tout le reste. La clé de voûte, c'est le cheval blanc. Or, le cheval blanc n'est compris que dans le Christ victorieux. Et ma grâce chrétienne va impliquer par le fait même une parenté divine avec le cheval blanc. C'est étonnant, ça. Vous voyez comme c'est grand. L'Église, c'est le lieu de la victoire. C'est le lieu où le cheval blanc peut se manifester. il ne se manifeste que dans l'Église. Mais il se manifeste dans l'Église. Alors là, c'est quand même quelque chose d'étonnant. Et alors, il est dit, hein, la guerre. Et alors on dit l'arc. L'arc. C'est très beau, ça. L'arc, c'est l'arme légère du petit David en face de Goliath. Il a la fronde, c'est l'arc. Les armes primitives, naturelles, l'arc, la fronde. Le chrétien lutte, c'est pour ça qu'il est victorieux. Celui qui n'a jamais lutté dans sa vie n'est pas victorieux. La grâce chrétienne est une grâce qui me donne la force pour lutter. Et pour lutter dans le sillage du Christ, lié à la victoire de la croix. Alors ça donne un tonus à ma grâce chrétienne. Quelque chose, le thumos de la grâce chrétienne, qui fait que je suis victorieux. Je nais victorieux. Je ne nais pas comme quelqu'un qui est dans la défaite. Et qui dit, oh non, non, c'est impossible, tout est d'ailleurs. Non. La victoire donne, vous voyez, le jubilé de l'an 2000. C'est la grande victoire du Christ dans le monde, depuis 2000 ans. C'est ça le jubilé. C'est fêter la gloire du cheval blanc. Alors, je connais certains qui aiment beaucoup l'Apocalypse et qui disent non, 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 le cheval blanc, c'est déjà celui qui lutte. Pourquoi ? Parce qu'il a l'arc. Mais il y a des luttes qui sont saintes et il y a des luttes qui sont perverses. Mais on est sur la terre et on est dans l'Église. L'Église, c'est l'Église militante. C'est l'Église du combat. C'est pas une infirmerie. Il y a des gens qui rentrent, c'est l'Église et l'infirmerie. Et l'infirmerie ambulante. Non. Alors, vous comprenez ce qui est dit ici. Et voici un cheval blanc. Et celui qui le montait avait un arc. Il lui fut donné une couronne. Ça, c'est bien la gloire. C'est bien la victoire. Il sortit en vainqueur pour vaincre encore. Voilà la grande espérance. Le premier regard du Père sur nous, c'est le cheval blanc. Mystère de la grâce. Et voyez, si vous êtes attentif à ce qui est dit ensuite, il leur fut donné pouvoir sur le quart de la terre pour tuer par l'épée, par la famine, par la peste et par les bêtes sauvages de la terre. Ça, c'est les trois suivants. Alors évidemment, ce cheval blanc est accompagné de trois qui sont pas très drôles. C'est pour ça qu'il doit lutter. Il lutte tout de suite. Le chrétien lutte tout de suite. Tout de suite. Dès qu'il a conscience qu'il est chrétien. Alors vous avez la couleur de ses chevaux. C'est toujours. Et alors ce qui est très étonnant, c'est que c'est quand même là. Le symbolisme du cheval. Là, ça, il faut se demander pourquoi. Oui. L'Esprit Saint aurait pu nous aider en donner un autre symbolisme. Il aurait pu mettre des crapauds. Là, vous avez vu des crapauds ici. Ici, second, un crapaud rouge feu, un crapaud verdâtre. On aurait très bien compris que c'est pas la même chose que le cheval. C'est quand même curieux. Le Saint-Esprit, parce que c'est quand même l'Esprit Saint qui nous donne ça. Le Saint-Esprit brouille les cartes pour qu'on soit intelligent. Le Saint-Esprit ne veut pas tout dire. La foi. Et qu'on soit intelligent. Et qu'on arrive à discerner. Oui, c'est pour ça que le Saint-Esprit fait que le monde, l'univers, c'est le même mot révélé qui signifie combien Dieu a aimé le monde et n'aimait pas le monde. Le contexte. Alors moi je crois que le cheval, c'est le symbolisme de quelque chose qui est donné dès la nature. Vous voyez, la grâce est reçue dans notre nature. Et la prédestination regarde l'homme, la personne humaine. Et qu'est-ce qui est donné en même temps? Nous naissons dans le péché. Les conséquences du péché originel. Ah, voilà. Et je crois que ce sont les conséquences du péché originel qui nous sont montrées là. Alors, vous avez le cheval rouge feu. Il est toujours en colère. Vous avez le cheval noir. Vous avez une tentation permanente. Victorieux. Alors, il faudra regarder et on regardera.